mal au bassin oriental. J'ai réussi totalement cette étude.
Moi, j'ai dit que vous m'avez au bassin oral, je pense qu'on peut en combinant les deux pratiques de mes précédents trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Dans le cadre de l'exécution du projet de transport multimodal du gouvernement congolais et ses partenaires qui consistent à améliorer la desserte des régions de la RDC pour promouvoir leur intégration économique, la SCTP ex-ONATRA a inauguré la semaine dernière la réouverture du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Cette inauguration intervient quelques mois après l'ouverture du trafic fluvial Kinshasa-Kisangani avec l'ICB Kokolo. Certains observateurs estiment qu'aujourd'hui, le gouvernement tend vers la réalisation d'un objectif fondamental, celui d'améliorer la performance du secteur du transport. Une autre opinion pense plutôt que ces tentatives de relance des activités ferroviaires et fluviales, qu'elle qualifie des initiatives prises dans la précipitation, n'auront aucun impact sur le terrain. Quel est votre avis ? En direct, vous pouvez participer à ces débats en nous rejoignant au 081 890 63 15. Vous avez également la possibilité sur notre page Facebook de poster vos messages. Guy Manzangou est à la technique, Julie Feza Bongonda à la réalisation. Cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Nguembo sous la supervision de Lona Moulamba. Bienvenue à tous.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous ouvrons ce débat avec vous, Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Vous avez la parole, Franck.
Oui, merci beaucoup. Je venais de prendre connaissance de la thématique soumise au débat. Selon moi, je trouve que ce sont des initiatives que nous devons saluer et encourager, mais sans pour autant oublier que toutes ces initiatives sont aussi inscrites sur l'actif des obligations et charges régaliennes de chaque État ayant un gouvernement qui se fait responsable et redevable vis-à-vis de ses concitoyens. Oui, on doit aussi peut-être dire que la RDC a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là parce que on a un grand pays avec beaucoup de cours d'eau qui ne sont pas parfois toujours convenablement navigables. Alors que si on pouvait rendre tous nos cours d'eau navigables, donc on arriverait à faciliter beaucoup de choses, ça c'est d'abord un coup de deux. Au niveau de la gestion de certains ports, donc là on doit aussi les rappeler que pour expédier les histoires de l'Europe pour le port de Boma Bimatagi, les frais douaniers sont parmi les frais les plus chers au monde. Il y a parfois des fracasseries qui sont au rendez-vous et parfois des surprises et des services qui s'ajoutent pour casser tel taxe et tel autre. On a toujours parlé de la standardisation, mais il faut aussi arriver à équiper tous ces ports pour qu'ils arrivent aussi à atteindre ce niveau standard de tous les autres ports. Et aussi peut-être se battre pour informatiser tous ces systèmes de gestion et de perception, parce qu'on parle des guichets uniques. À part le guichet unique, il y a encore d'autres bureaux parallèles qui veulent avoir ceci, qui veulent avoir cela. Donc, c'est bien ce que le gouvernement est en train de faire, nous le saluons, mais on ne doit pas s'arrêter juste à deux, trois initiatives aussi pour se servir de ces initiatives pour des fins propagandistes. Donc, on a encore beaucoup à faire. qu'on continue de l'avant pour ne pas s'arrêter à deux initiatives qui serviraient seulement de campagne électorale.
Voilà. Oui, alors Franck, pour ceux-là qui pensent que, en fait, relancer ces activités ferroviaires et fluviales, et même on qualifiait de, des initiatives prises dans la précipitation, que cela ne pourrait avoir aucun impact sur le terrain. Est-ce que vous partagez cet avis dans la mesure où, par exemple, en ce qui concerne le bateau, il n'y a que Itébé Kokolo, l'unique bateau qui fait Kinshasa qui s'est gagné. Pour les comptes du train, c'est juste pour les tronçons. On n'a qu'un seul train qui va désormais desservir Kinshasa Matadi. Alors, pourquoi ne pas, avant de relancer ces genres d'activités, avoir un matériel roulant quand même considérable?
Oui, je crois que les uns et les autres peuvent avoir raison. Je crois que, en introduction, je l'ai bien dit, la RDC, par rapport à sa taille et sa superficie, est un pays qui a besoin de beaucoup d'infrastructures. Et quand on arrive à relancer une ou deux, on ne doit pas se satisfaire parce qu'il y a seulement les bateaux Kokolo qui naviguent, ou bien des trains qui relient le bout de la RDC à l'autre extrême. Donc, c'est pas tout. Donc, il faut arriver à exploiter tous ces réseaux-là. C'est comme ça que je dis, on ne doit pas penser qu'on a tout fait à base de deux initiatives. Ça, c'est un tout du deux. Chez nous, c'est le problème. On pose un acte, et on arrive à l'inauguration, et à l'inauguration, on amplifie comme si c'était vraiment de l'exploit qu'on n'a jamais vu quelque part dans le monde, alors que ce qu'on est en train de faire, ce sont des actes qui relèvent des attributions régaliennes de chaque État. Donc, ils ont encore beaucoup à faire, et quand quelque chose est fait, nous reconnaissons que c'est bien, mais on ne doit pas s'arrêter là-bas. Donc, ceux qui pensent que ça ne suffit pas de s'arrêter là, ils ont raison, parce que pour la RDC, il n'y a pas que le fleuve Congo, il y a autant de rivières encore navigables, il y a la rivière Kwilu, il y a la rivière Kasai, il y a des rivières qui sont encore navigables, qui ont besoin de bateaux, qu'on doit encore baliser. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, en bref, il y a encore beaucoup à faire, qu'on ne s'arrête pas seulement à ça, et qu'on ne pense pas qu'après avoir mis en marche le bateau Kokolo, donc tout est maintenant au superlatif à RDC, on va voir tous les ministres venir à l'inauguration, on va voir tout le gouvernement venir là-bas, messieurs les journalistes. Parfois c'est trop. Pour une petite inauguration, on va voir tout le gouvernement sur place. Ça surprend quand même. Est-ce qu'ils le font parce qu'on a inauguré, parce qu'on a fait une réflexion, ou ils le font aussi pour des faits propagandistes? Donc on est content de voir qu'il y a des actes, il y a des gestes qui se font, mais parfois ça nous dépasse un peu de voir la manière de faire de la publicité. Donc on est d'accord, on doit le faire, nous sommes contents, mais qu'on fasse encore plus et qu'on nous épargne vraiment de l'arsenal publicitaire pour nous faire croire que si on inaugure, il n'y a que ça dans le monde. Donc il y a plus que ça, même pour que la RDC atteigne maintenant ce niveau standard de ses autres États, avec qui ils peuvent aussi se comparer.
Merci beaucoup, Franck, pour que la RDC entre dans le concert des nations. C'est vrai, il suffit de multiplier ces genres d'initiatives pour que nous puissions vraiment atteindre les niveaux standards afin d'avoir droit à un chapitre dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais que cela ne tienne, vous avez insisté sur le caractère publicitaire qu'entoure ces genres d'initiatives qu'on doit nécessairement éviter par la suite. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, Franck a salué ces genres d'initiatives, a même encouragé en disant que c'est là, entre ou doit s'inscrire dans les obligations régaliennes d'un État. Alors, la gestion des ports, ça doit être aussi prise en compte, parce que nous avons des sérieux problèmes au niveau des terminaux, les frais douaniers, les tracasseries avec la multiplicité des services. Ça aussi, il faut tenir compte si réellement on veut améliorer la performance du secteur des transports. Voilà autant de préoccupations que Franck venait de relever. Vous, Félicien, quel est votre point de vue par rapport à cette thématique?
Oui, moi, je n'ai jamais accepté cette façon de soutenir les initiatives qui sont utiles pour notre pays. Nous avons dans notre pays une opposition qui n'est pas constructive, et qui voit toujours le noir du côté de ceux qui sont aux affaires. Alors que chaque fois que ceux qui sont aux affaires font quelque chose, il faut les soutenir, il faut les encourager. Et de cette façon-là, nous pouvons construire. Mais si on voit toujours que tout ce qu'ils font est mauvais, alors en réalité, si elles viennent aux affaires, ils ne feront rien de bon. Parce que tous ceux qui sont négatifs, ils seront toujours négatifs et incapables. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence quelque part. Et quand on a commencé quelque part, il faut encourager celui qui a déjà fait un pas pour qu'il puisse faire le deuxième pas et le troisième pas afin d'arriver au résultat. Et ça, c'est une bonne chose. Mais ce que nous devions plus condamner, c'est le caractère propagandiste de tout ce qu'on est en train de faire. Parce que ceux qui font ce travail, ceux qui sont en politique, ceux qui sont aux affaires, ils sont là justement pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc ils ne peuvent pas penser que quand ils ont fait quelque chose, ils doivent tourner autour de ça, la télévision mobilisée et tout ça, mais beaucoup plus regarder ce qui reste. Parce que ce qui reste est plus immense que ce qu'on a déjà réalisé. Et de cette façon-là, ils entraînent toute la population, ils leur montrent voilà là où nous voulons aller, voilà les difficultés que nous avons, et il faudra nous soutenir, même par les prières, par tous les moyens pour que les gens soutiennent l'action. Mais quand on tourne sur ce qu'on a déjà fait, alors que ça ne représente rien par rapport à l'identité de la tâche qu'ils ont à faire, ils risquent de commencer à raisonner comme l'ancien président de la République, Mobutu, qui disait qu'il a tout fait pour le Congo, alors que le Congo est là comme encore une forêt, il n'y a rien qui a été fait. Donc moi, je demande à ceux qui sont aux affaires de beaucoup plus regarder ce qui reste à faire et de ne pas trop être en train de tourner. Quand on a fait une belle route, nous le voyons, c'est vrai, et c'est beau, on passe et on oublie ça, on passe à autre chose, parce qu'on est là pour ça, on est venu pour faire ce travail-là. C'est le peuple qui juge, c'est le peuple qui voit, et c'est pas, ils n'ont pas besoin de montrer encore à ce même peuple qui voit déjà les réalisations et leur montrer matin au soir à la télévision ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas d'importance. Et puis, il ne faudra pas attendre qu'on arrive à la veille des échéances électorales, comme en 2009, on a vu toute la vie dans la poussière, on veut faire ce, on veut faire cela, mais on n'a pas fait grand-chose, on voit seulement deux, trois boulevards qui ont été aménagés, et le reste de la ville est dans la qualité. Même si on travaille parce qu'on a un objectif à atteindre, on a un idéal et on a des convictions et on est patriote, on travaille seulement, on ne regarde pas ce qu'on a fait et on n'écoute pas les critiques des gens, mais on avance, c'est ce qui est plus important. Et moi, je ne veux plus qu'on revienne avec les méthodes de la Deuxième République, de propagande inutile, mais qu'on laisse le président de la République, qu'on laisse le gouvernement travailler sérieusement et que nous puissions voir les résultats. C'est là où nous devons les soutenir, c'est là où nous devons les encourager, mais ne soyez pas trop négatifs pour ne voir que du noir. Quand les autres ont bien fait, il faut les soutenir.
Oui, mais je crois qu'il était quand même important d'accompagner ça par une publicité, parce que ça fait pratiquement 15 ans qu'on a connu une absence totale du trafic ferroviaire sur les tronçons, sur l'axe Kinshasa-Matadi. Je crois que la reprise, ça ne pourrait que faire la joie de tout le monde.
Mais oui, on n'a pas besoin de publicité, parce que c'est tout le monde là déjà qui voit qu'il y a les trains et on doit prendre les trains, on doit partir, on doit faire. C'est la vie du travail quotidien, c'est la vie de tous les jours. Ça peut pas être quelque chose de spécial. Mais si nous devons commencer à réfléchir comme ça, mais les jours nous allons faire comme Paris, nous allons creuser sous le sol, des kilomètres sous le sol, nous allons construire des villes sous les sols, les métros et tout comme ça. Mais à ce moment-là, ça sera quoi. Alors moi je pense que nous devons sortir de cette voie, c'est la voie que beaucoup de dictateurs africains utilisent et vous verrez dans la télévision même Afrique 24, il y a que ça, le Cameroun, les choses là. En réalité, c'est là où on ne fait pas grand chose qu'on fait des choses comme ça. Et après, quand ce régime n'est plus là, on vient de couvrir que c'est la pauvreté, c'est la misère. Nous, on n'a pas besoin de suivre cette voie-là. On a un autre idéal. Il faudra que, comme le président de la République, c'est un homme silencieux qui n'aime pas parler, que les autres aussi se taisent et qu'on travaille.
Merci beaucoup, Félicien, d'avoir appelé. On va prendre Eddy qui est à Lubumbashi. Eddy, bonjour.
Bonjour, M. Gier.
Vous avez la parole, Eddy.
Merci beaucoup pour la parole, M. Gier. Si nous interrogeons l'histoire, nous nous rendons compte que c'est vers les années 1990, avec les pillages, qu'on a vu la décadence de nos sociétés de transport, la SNCC, ONATRA, même dans le domaine aérien et même dans le domaine fluvial. Et depuis lors, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur. Nous devons reconnaître que depuis, je crois, 2010, qu'on a commencé à avoir des investissements dans les domaines ferroviaires, fluviales et aériens, avec la construction des tours de contrôle, l'allongement des pistes d'atterrissage et même la construction de l'aérogare. Maintenant, moi, je suis un peu inquiet parce que on a parlé de PTM 1 et puis PTM 2. Et depuis lors, on ne parle pas de PTM 3. Alors, j'interviens surtout, monsieur Gilles, pour faire un plaidoyer. Avec tout ce temps qu'on a fait, pratiquement 20 ans sans investir dans le secteur des transports, je crois que PTM et PTM 2 sont insuffisants. Il faut aller à PTM 3, PTM 4, PTM 5, jusqu'à même à PTM 10. Si nous prenons l'exemple de la SNCC CV, on a doté la SNCC de 18 locomotives, 20 autres sont en train de venir, mais il n'y a pas que les locomotives. Du côté voie, moi, mon père travaille à la SNCC, il est du côté voie. Il y a beaucoup d'engins qui manquent. Il y a les bourreuses, les régaleuses, les dégarnisseuses, les soudeuses, les désherbeuses qui manquent. Il y a beaucoup d'engins qui manquent. Aujourd'hui, la SNCC utilise 2 bourreuses, alors qu'en 82, elle utilisait 10 bourreuses avec 5 neufs. Donc, pour entretenir la voie ferrée, il faut des engins. Alors, il faut continuer avec le programme. Un pays qui a fait 20 ans sans investir doit maintenant faire au moins 20 années aussi d'investissement pour que cela soit ressenti partout. Si nous prenons le secteur aérien, on parle d'environ 300 aéroports et aérodromes en République démocratique du Congo. Certains conviennent de réhabiliter les aéroports internationaux, mais il y a encore d'autres aéroports à l'intérieur du pays. Il faut qu'il y ait un programme pour la réhabilitation de tous les aéroports à l'intérieur de notre pays. Il faut qu'on construise des tours de contrôle dans tous ces aéroports-là. Si nous prenons le domaine fluvial, on a certes réhabilité Kokolo. J'ai appris qu'il y a un Ngongo qui va bientôt sortir. Mais si vous regardez, il y a un manque criant. Pourquoi plusieurs de nos compatriotes meurent sur des baleinières? Parce que ce sont des choses qu'on a monté, qui ne respecte aucune norme, et c'est pourquoi il y a beaucoup de morts. Il faut donc continuer à investir dans le secteur des transports, il faut continuer à acheter des matériels, continuer à acheter les rails, les traverses, continuer à réhabiliter les unités flottantes du côté SCTT. Il y en a encore qui sont bloqués là-bas, qu'il faut réhabiliter. Donc nous félicitons le gouvernement et nous demandons au gouvernement de ne pas s'arrêter à PTM 2, d'aller jusqu'à PTM 10. Et là, vraiment, le secteur, vous connaissez vous-même l'utilité du secteur des transports, c'est le transport qui permet à ce que l'activité économique puisse se relancer. Voilà, je me suis
voilà, oui. Merci beaucoup, Eddy. C'est vrai, quand vous parlez de PTM, il faut quand même faire une idée très claire à tous les auditeurs hein, qui ne comprennent pas, c'est le programme transport multimodal. Le programme 1, 2, 3, pour vous, vous souhaiterez que cela puisse aller jusqu'à 10. Ça nous permet quand même de donner une idée à tous ceux-là qui nous suivent que ce programme date de très longtemps, c'est-à-dire 2009, la Banque mondiale avec le gouvernement congolais tant que partenaire, donc ils ont lancé ces programmes, vous l'avez si bien dit, avec le financement au niveau de la SNCC et également au niveau de la SCTP, ex-ONATRA. Aujourd'hui, c'est vrai, 5 ans après, nous sentons que les choses commencent un peu à répandre, donc le poil de la bête, pour dire que ces initiatives sont encouragées, comme l'ont fait vos prédécesseurs, Eddy, et vous et également, mais vous souhaiterez qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a déjà fait, comme l'a dit également Félicien, nous ne devons pas nous limiter qu'au fleuve Congo, il y a des rivières, il y a des lacs qui nécessitent aussi que ces initiatives soient prises pour aider la population qui se trouve dans ces coins. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui a motivé le lancement de ces projets, de ces programmes de transport multimodal, c'est parce que une majeure partie du territoire congolais serait, semble-t-il, enclavée sur les 10 capitales provinciales qui comptent le pays. Seules 2 sont reliées par la route à Kinshasa, la capitale. Voilà. Merci beaucoup, Eddy, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va prendre Sylvain de Bounia, en attendant que la réalisation puisse mettre la main sur notre édité, qui nous avait donné du reste son accord de principe pour participer à cette émission, le directeur général de la SCTP, ex-ONATRA. Sylvain, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs, tous les auditrices.
Oui, c'est plutôt JR qui est à l'antenne. Je
vais remercier la radio Capi pour ce débat. Un débat très important, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce matin, quand j'ai changé avec certains jeunes, on a discuté, puisque allez-y comprendre que la question du développement d'une nation, d'un État, d'une société, c'est tout simplement les routes, n'est-ce pas, les voies de communication. Et puisque quelqu'un l'a dit, moi je voudrais tout simplement ici situer le débat à trois échelons. Il y a d'abord l'échelon national, provincial et international. Pourquoi? Parce que, M. Pierrot, lorsque vous lisez l'article 2 de la Constitution, il est stipulé au point 21 que la question de la navigation maritime intérieure, les lignes aériennes, tout ça, si vous lisez cet article, vous comprenez que c'est du rôle de l'État, comme Franck l'a dit. Parce que là, je voulais me marier à l'idée de Franck. Donc, c'est une question de gouvernance d'État. Et maintenant, dans la même position, lorsque vous lisez l'article 2.4, le point 15, il est dit encore toutes les voies de communication provinciales sont des compétences des provinces. Alors, Pierrot, vous avez suivi tout de suite les gens étendaient la question de propagande. Moi, je dis non. Les Congolais doivent comprendre qu'il y a certaines tâches qui sont de l'émanation d'une gouvernance de l'État et aussi d'autres choses qui doivent être considérées comme des propagandes. Moi, ici, ensemble avec le peuple congolais, nous devons féliciter l'État congolais. Féliciter l'État congolais, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une action prioritaire d'une gouvernance. Mais quel est le problème, M. Pierrot? Et là, je voulais que nous puissions comprendre avec les gens. Parce qu'avant que je n'aborde la question sur le plan international, parce que là, je rentrerai en Ituri pour parler des voies de communication de l'Ituri, l'Ituri a fait des provinces, je vous dirai quel est le problème. La position est claire en la matière. Ça veut dire que dans les programmes de l'État, ça veut dire dans les budgets, on doit inscrire une somme importante pour faire décoller les voies de communication. Pourquoi? Sans les voies de communication, M. Pierrot, sans les voies de communication, il n'y a pas interconnexion entre les entités administratives d'un État. Ça veut dire quoi? Si nous voulons que les produits d'une province A arrivent dans une province B et ainsi de suite, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des voies navigables, il faut qu'il y ait des voies ferroviaires. Voilà la question. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, je vais entrer dans l'Ituri, M. Pierrot, puisque c'est là où je voulais intervenir. L'Ituri. Et là, je vais brandir l'accord de Ngoboto, l'accord qui a été signé entre les gouvernements congolais et les gouvernements ougandais pour harmoniser la question des communications. Puisque lorsque vous lisez l'accord de Ngoboto signé le 8 septembre 2007, vous lisez le chapitre 2, coopération économique, l'article 5 du développement des infrastructures, point 1 des transports, des échanges et des commerces de l'énergie électrique, tout ça. Vous vous rendez compte que du côté de l'Ouganda, il y a eu des choses qui ont avancé, mais du côté du Congo et principalement en Ituri, rien ne marche. Oublie la PEC, puisque c'est de ce qu'il s'agit. Les opérateurs économiques sont en train d'utiliser des routes délabrées. Et comme maintenant nous irons vers la période pluvieuse, il n'y a pas communication. Et là, il y a un problème d'économie, M. Pierrot. Puisque les gens doivent comprendre que les routes ou les voies de communication constituent la sève même de la vie d'une nation. Puisque sans les voies de communication, il n'y a pas vie. Donc moi, je pense que nous devons encourager le gouvernement congolais et ensemble avec les autorités nationales, provinciales, locales, tout ça, nous devons harmoniser les points de vue pour que nous puissions construire nos routes, construire nos voies ferroviaires. Je pense que c'est important et c'est une question de haute responsabilité d'État.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé dans cette émission. Voilà, vous avez évoqué les dispositions de la Constitution qui, en fait, expliquent ce que venait de dire tout à l'heure Franck, qu'il s'agit là des obligations régaliennes de l'État. Vous avez évoqué l'article 21 de la Constitution ainsi que l'article 204.15 de la même loi fondamentale. Et vous avez évoqué aussi cet accord qui a été signé entre les gouvernements congolais et les gouvernements ougandais en 2007 pour en fait améliorer la performance du secteur du transport entre les deux pays, et surtout que nous sommes comme là, à l'Ituri, vous l'avez dit, c'est, nous partageons la même frontière avec l'Ouganda. Et de l'autre côté de l'Ouganda, les choses marchent comme sur les roulettes. Ben, en RDC, on semble un peu traîner les pieds, on ne sait pas pourquoi. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé des Bouya. Maître Dominique, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour, maître.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Merci bien de m'avoir accordé la parole. Monsieur, c'est par rapport à ce qui a été fait, quand les autres parlent de la propagande, oui, mettez ça sur le coup de la propagande, ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, je suis un musulman, je vis normalement du train. Au Kassai, surtout l'ancien Kassai, c'est le train qui était la charnière de notre économie. Monéditou, la ville de Monéditou était même, lorsque la SNCC commençait à se courber, la ville de Monéditou, la gare de Monéditou était en mesure de tenir tous les agents de la SNCC. Mais aujourd'hui, si vous y arrivez, c'est comme si c'était la saison sèche. C'est comme si il n'y avait plus personne. Dans la gare là, il y a des chèvres, il y a tout, il n'y a sauf les trains. Ça fait 2 mois pratiquement qu'il n'y a plus de train à Monéditou. Ça fait 2 mois. Vous avez appris récemment à Kabongo, le président Fek, dire qu'il y a des marchandises qui moisissent. Vous avez appris récemment qu'à Luena, on est en train maintenant d'incendier les riz qu'il y a là. S'il vous plaît. Lorsque vous voulez faire ces transports, vous êtes un gouvernement responsable. Vous travaillez sur quelle base? Moi, je crois que c'est sur base des priorités. Vous devez programmer votre programme sur base des priorités. Vous dites, lorsque nous allons mettre le train entre Kinshasa et Matadi, c'est 300 km, ça va faire quoi? Parce que là, il y a la route, c'est une très bonne route. Lorsque nous allons mettre le train entre Kabongo et Kamina, ça va faire quoi? Lorsque nous allons mettre le train entre Sakania et Ilebo, qu'est-ce que cela produira? Nous nourrissons combien? S'il vous plaît, ces gens n'ont pas de programme national sur les transports. Monsieur Kabila sait qu'il a muselé. Il voulait lui museler les Kassaïens, mais il s'est retrouvé en train de museler même tous
non,
les
Kassaïens. Oui, maître Dominique, maître Dominique, vous avez suivi tout à l'heure Eddy qui a évoqué le programme des transports multimodal, PTM1, PTM2. Lui a évoqué plutôt que son souhait que ces programmes puissent aller même à 10. Comme pour dire, c'est tout un processus qui pourrait prendre le temps que ça prendra. C'est qu'il y a déjà un chronogramme, il y a des priorités. Qui sont inscrites. Donc, je crois que c'est dans cette logique-là qu'on évolue. Et aujourd'hui, je l'ai évoqué tantôt, depuis 2000, on n'a plus connu, en tout cas, il y a eu l'absence totale du trafic ferroviaire qui tient à Matadi. C'est le trafic qui faisait la fierté un temps, même pendant la Deuxième République. Mais aujourd'hui, la reprise, ça ne pouvait que faire la fierté de tout le monde.
S'il te plaît,
autant la reprise du trafic ferroviaire.
Qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui devait être fait et qui est fait aujourd'hui?
Oui,
lorsque M. Kabila a fait
le
campagne.
Oui, maître Dominique. Parce que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette reprise des trafics fluviales avec l'Itélé Kokolo, ça a enchanté plus de Boyomé, plus de Ribera qui, en fait, depuis plus d'une décennie, n'ont plus revu un bateau sur le fleuve. Le bateau...
Vous savez, ce bateau-là transporte, a fait combien de tours? Ces transports-là, c'est un cheval blanc. Il a fait combien de tours?
Ça, c'est vous qui l'édite. Et nous avons suivi l'actualité avec le numéro 1 de la SFTP qui a donné des explications pour dire en ce moment pourquoi le bateau n'est pas sur le fleuve.
C'est un cheval blanc, monsieur, c'est un cheval blanc. Il n'y a rien.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup,
l'intérêt des Congolais.
Merci beaucoup, maître Dominique. 081 890 6315 pour votre intervention en direct dans ces débats et échanges citoyens.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. Parole aux auditeurs. Partout où vous nous suivez, vous pouvez également contribuer dans cette émission en composant les 081-890-63-15. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Alors, dans le cadre de l'exécution du projet de transport multimodal du gouvernement congolais et ses partenaires, qui consiste à améliorer la desserte des régions de la RDC pour promouvoir leur intégration économique, la SCTP Exonatra a inauguré la semaine dernière la réouverture du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi. Cette inauguration intervient quelques mois après l'ouverture des trafics fluviales Kinshasa-Kisangani avec l'ITB Kokolo. Certains observateurs estiment qu'aujourd'hui, le gouvernement tend vers la réalisation d'un objectif fondamental, celui d'améliorer la performance du secteur du transport. Mais une autre opinion pense plutôt que ces tentatives de relance des activités ferroviaires et fluviales, qu'elles qualifient des initiatives prises dans la précipitation, n'auront aucun impact sur les terrains. Vous venez de suivre cette longue série des auditeurs. Nous allons retrouver à présent notre invité qui est en ligne, monsieur Jean Kimbembe Mazunga, le DG de la SCTP ex-Onatra. Bonjour monsieur le DG. Monsieur le directeur général, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, monsieur Kimbembe, vous venez de suivre les auditeurs, mais d'entrée de jeu, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de procéder à la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, une inauguration qui intervient quelques mois après l'ouverture du trafic fluvial Kinshasa-Kisangani. Est-ce qu'on peut dire que tout cela rentre toujours dans le cadre de l'exécution du projet de transport multimodal?
Bien sûr. La SCTP aujourd'hui, c'est le JATRA, Office national des transports. Transport en France, transport fluvial et transport ferroviaire. C'est comme ça que vous avez dit, les transports multimodal. Nous avons lancé une ITB Kokolo qui est loin d'être un cheval blanc. Je reparlerai plutôt d'avec un blanc, je comprendrai.
Un
cheval sur le fleuve, on verra jamais non plus. ITB Kokolo a été lancé au mois d'avril. Le premier voyage a eu lieu au mois d'avril. Dans les délais tout à fait satisfaisant, le convoi est arrivé à Kisangani sans problème. Il est arrivé au chemin du retour à Kinshasa, au kilomètre 343 à Bolobo, par la fosse d'une valise qui était couverte par des anciens ciseaux. On n'a pas pu retirer un banc de sable. Le bateau, le convoi s'est échoué, mais les capitaines ont réussi à se trouver à quitter les sables, et ça, sans un secours, montrant la compétence des capitaines et les performances du matériel. Donc, c'est un incident banal, mais que nous avons souligné, le bateau est rentré avec près de 1000 tonnes, si pas plus, près de 1200 tonnes de vivres, avec pratiquement un taux de remplissage de 80% au niveau de sa large passager. Le bateau est taqué aujourd'hui simplement parce que nous attendons un avis de la RVF. Le bateau, c'est comme la voiture sur la route. Vous avez la Commission nationale de formation de ceux qui vous met le signal, rouge, vous chauffez, vert, vous passez. Nous sommes au rouge maintenant, nous attendons le vert de la régie de voie fluviale pour remettre le convoi à flot. C'est un bateau de gros tonnage. Le tirant d'eau est très important. Aujourd'hui, la calaison est faible. Nous ne pouvons pas prendre ces risques-là. C'est pour ça que le gouvernement s'est attelé à remettre en marche. Vous avez vu dernièrement le Premier ministre aller visiter au chantier naval de Chani. Les travaux de révise de la réhabilitation et de la construction de nouvelles bases. Des bases passagers, une base cargo. Le convoi Kungu, ça c'est un bateau qui peut naviguer dans ce qu'on appelle les rivières de première et deuxième catégorie. Voilà, donc c'est loin d'être un éléphant blanc. Par rapport au trafic ferroviaire, vous savez, c'est quand même une question de prestige nationale. Être seul pays au monde où vous n'avez pas un transport passager digne de ce nom, où vous ne savez pas faire voyager les compatriotes conformément au prestige de l'Union internationale du chemin de fer, c'est une honte. Nous sommes là pour relever les défis. Nous sommes là pour permettre au gouvernement de réaliser ce qu'on appelle l'accès au service de base. Mais en ce qui concerne le chemin de fer des trains voyageurs, nous avons lancé les trains voyageurs. Après plusieurs essais entre Matadi et Kinshasa, nous avons lancé le volet commercial à partir du 22 août. Le bateau, plutôt le train, est parti avec tous les luxes que nous avons vus. Nos compatriotes, les auditeurs de Radio Capuchon sont invités à aller à la gare centrale, visiter les voitures qui sont là, apprécier le confort qu'il y a là-bas. Nous avons tout fait pour réaliser la vitesse, le confort et la sécurité. Le temps de l'arche est calé à 6h30, mais comme nous ne faisons pas du rallye, nous disons on fait 7h. Si la route on fait 5h de temps, où les gens ne peuvent pas s'arrêter, où les gens doivent solliciter les chauffeurs pour s'arrêter et se soulager, où les gens sont invités à avoir un morceau de pain, puis un morceau. Nous avons les prix les plus bas par rapport à l'avion, par rapport à la voiture. Et il y a un catering là-bas. Déjà, on mange mieux que dans les avions. Ils font ma qualification. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On a fait des choses selon les standards et il y aura des régularités.
Alors, avec un seul train, pensez-vous, monsieur le DG, que cette offre pourrait réellement faire face à la demande à ces jours?
Déjà, nous sommes débordés par les réservations. Après, les gens sont toujours pessimistes de ça. Il y a eu le premier train qui s'est lancé le 22, samedi. Au retour du 23, on a dû laisser du monde. Pour le deuxième voyage de samedi prochain, il y a déjà, nous sommes débordés, nous sommes en train d'être débordés. C'est là. Et puis, les demandes de stop. Nous avons plus ou moins 40, au-delà de 30 gares à desservir entre Kinshasa et Matadi. Chaque entité sollicite, les autorités administratives de chaque entité sollicite l'arrêt au niveau de ces gardes-là. Donc, rapidement, très rapidement, nous sommes obligés de mettre en circulation un train omnibus qui, lui, va devoir s'arrêter à chaque stop. Et là, nous avons lancé un train express. Le train express, selon le nombre, qui s'arrête peu à quelques gares pour bien se faire. Mais, effectivement, il est vrai que la demande est telle qu'aujourd'hui, on doit augmenter les rotations du train express, maximum 3, si pas minimum 3, et puis mettre au moins 2-3 trains omnibus. Nous y travaillons, nous venons à peine de commencer.
Voilà, on va repasser de l'autre côté du standard pour retrouver à nouveau les auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat pour, au fait, contribuer à cet échange afin d'apporter quand même quelques lumières, quelques éclairages par rapport à cette thématique. Il y a bienvenue Louia qui est à Kinshasa et Joséphine, Madame Joséphine qui est à Boston aux États-Unis. Bienvenue Louia, vous êtes avec nous, bonjour. Bienvenue, vous êtes avec nous.
Oui, je suis avec vous, Monsieur Gilles, je vous suis.
Voilà, vous avez la parole. Quel est votre point de vue après avoir écouté et suivi vos prédécesseurs qui ont aussi apporté leur contribution dans ces débats, dans cet échange citoyen?
Oui, ma contribution est simple. C'est que je vais dire est que nos dirigeants aujourd'hui et tout le peuple congolais, n'oublions pas qu'hier, quand on était moins de 70 millions d'habitants, nous vivions plusieurs bateaux qui flottaient entre les fleuves et toutes les rivières du Congo. Et ce qui me fait un peu mal, lorsque je suis l'autorité numéro 1 de l'Ectonatrac, parler des termes techniques, les pyramides et consorts. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de grandir à l'Équateur. On voyait des bateaux qu'on appelait balisaires. Je me rappelle même de certains noms. Baliser, il est beau. Ça passait pendant la saison sèche pour baliser la route afin que les bateaux flottent. Mais lorsqu'aujourd'hui, je dois suivre un DG de l'ONATRA, dire que non, le bateau Pokolo, c'est pas un cheval blanc parce que nous ne devons pas naviguer à cause de la saison sèche où il n'y a pas.
Oui, bienvenue.
Au niveau des
chevaux,
on a ça, c'est vraiment évité.
Oui, bienvenue. Le DG a insisté pour dire que le cheval ne peut pas flotter sur les fleuves. Hein. C'est plutôt un requin. Si vous voulez peut-être parler de requin blanc.
Ok, merci bien. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'ONATRA ne doit pas dépendre des combien de quantités de tonnes qui sont entreposées au niveau des quatre ports. Le grand problème, c'est que les commerçants d'hier dépendaient de l'ONATRA et se préparaient par rapport au calendrier, parce que ça finit. Tous les deux mois, le bateau doit passer au moins une fois dans n'importe quel port. C'est pas ça. Moi, je pense que la modernité dont ils prônent aujourd'hui était hier et non aujourd'hui. Alors, lorsqu'on doit inaugurer, d'abord, le verbe inaugurer, ça signifie quoi? Lorsque vous reprenez la reprise,
voilà. Vous voulez dire la reprise du trafic.
Voilà, c'est la reprise et il n'y a rien de mobilisation médiatique pour appeler les caméras, je ne sais pas, moi, les chaînes, pour dire voilà, on a fait ceci. Non, ce sont des bateaux qui existent.
Mais à la place,
vous passez aujourd'hui à l'ONATRA, vous trouverez Gungu, Goma, Gombari, tous ces bateaux d'hier sont là. Alors, c'est pas parce que vous avez repéré, vous devez mobiliser le monde entier pour dire voilà, on a fait ceci. Non. Moi, je pense que le grand problème aujourd'hui, c'est que hier, on était à moins de 70 millions. Les bateaux flottaient sans tenir compte des combien de temps dans les dépôts. Merci. Et les autorités actuelles réhabilitent, moi je pense que ça les termes, les bateaux, un avec un centre qu'on n'a pas acheté, qu'on a juste peut-être réhabilité, on doit faire des bruits. Non, le problème c'est que le gouvernement, à travers l'ONATRA et son ministre des Transports, doivent comprendre. Hier, les bateaux privés étaient réservés pour les compagnies. Mais aujourd'hui, si vous descendez dans nos différents ports en Dolo, sur les 100 bateaux, vous trouverez qu'il y a 80 bateaux appartenant aux autorités politico-militaires de notre pays. Raison pour laquelle les sociétés disnationales.
Voilà, je crois que bienvenue. Oui, là, je crois que si vous avez eu à mener des enquêtes par rapport à ça et que vous avez des données fiables, ça pourrait faire l'objet peut-être d'un débat un autre jour. Mais nous n'avons pas jusque là des preuves que.
Des preuves allées dans les différents ports. Vous trouverez des bateaux. Eh bien, général qui porte les noms de sa première fille.
Bon, merci beaucoup, bienvenue d'avoir appelé, surtout avec gentillesse, vous avez souhaité participer à ces débats et contribuer dans cette émission. Joséphine, vous êtes, Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour, J.R. Je salue la mémoire de tous les Congolais, et surtout les Congolais qui ont appelé dans cette émission. Ça montre déjà que on a la mémoire, on n'oublie pas. Si je dois prendre l'âge de Congolais, l'âge moyen de Congolais, je crois que c'est 40-45 ans. Donc, quand on grandissait, on a vu tout ce que les gens ont parlé. Les gens ont parlé de la SNCD, les gens ont parlé de l'ONATRA. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a appelé. Mais Lubumbashi, Équateur, ils ont appelé et ils ont donné des témoignages. Bon, je vais aborder ce sujet ici tout en parlant, tout en voyant, tout en considérant le Congo comme un ensemble. Parce que apparemment, le Congo est considéré et gouverné pas comme un ensemble, mais comme particulier, comme quelque chose de personnel. Donc, on est en train de satisfaire de besoins personnels. J'aime les transports et la communication. Les gens qui me connaissent, ils savent que cette maman aime le transport et la communication. Quand j'étais au Congo, j'étais dans le business des transports. Même quand je suis venu ici, mon mari et moi, on est dans le transport. J'aime les transports parce qu'avec les transports, le développement commence par les transports et la communication. Je vais partir de train qui partait dans le temps de Lubumbashi jusqu'à Ilebo. Ça faisait au moins 1600 kilomètres. Et puis, il y a une route qui part de Lubumbashi à Kinshasa. C'est à peu près 2300 kilomètres.
3180 km.
Pardon?
Voilà, Madame Joséphine, parce que bon, il s'agit d'une préoccupation directe, je crois que le DG voulait réagir.
Allô?
Restez en ligne. S'il vous plaît, restez en ligne. Je vois le DG voulait réagir rapidement.
Non, je voulais. Bon, peut-être que lorsqu'on était moins de 10 millions d'habitants, il n'y avait pas de problème de changement climatique. Ça, il faut comprendre que l'eau a baissé au niveau de l'univers. Deuxièmement, nous dépendons de la RVF, de la Régie des voies fluviales. Nous payons même les redevances à la Régie des voies fluviales. Et nous sommes obligés, nous enseignons à l'avis de la RVF. Nous ne prenons pas les risques. Le commissaire fluvial ne nous donnera pas l'ordre de quitter les ports si on n'a pas l'avis de la RVF.
Oui, monsieur le DG, il y a un auditeur qui a demandé pourquoi dans les temps, par le passé, le baliseur passait et permettait en tout cas la rotation tous les deux mois. Le bateau ne connaissait pas ce genre de retard et surtout que on prévoyait déjà avant qu'on entre dans la saison sèche, les baliseurs étaient d'une manière permanente sur le fleuve pour revoir, baliser et aussi faire le marquage sur le fleuve, quoi.
Mais je sais ce que je suis en train de vous dire.
Oui, allez-y.
Je suis, moi, utilisateur, usager de la route de navigation, qui est dont l'autorité se trouve être la Régie des voies fluviales. Celui qui me dit tu pars ou tu pars pas, vous partez pas. C'est à elle, cette Régie, de faire cette compassion. Et nous savons que cela se passe ainsi. On balise, bien sûr. On balise, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais il y a une catégorie de bateaux. On ne dit pas que la route de navigation est fermée aujourd'hui. Il est fermé pour une catégorie de bateaux. Au moment où nous parlons, l'ex-Onatra, la SCP, a au moins 10 bateaux qui flottent entre Kisamari et Kinshasa. Nous avons des bateaux qui transportent les crues depuis Kisamari. Nous avons une dizaine de bateaux maintenant sur le fleuve. Mais nous parlons du cas spécifique de Kokolo. Mais le tonnage autorisé pour Kokolo est tel que le niveau d'aujourd'hui ne permet pas sa circulation. Si vous avez un camion 10 roues, vous n'allez pas passer sur une petite ruelle de la commune de Kinshasa, sur Abimaloukou par exemple. Vous devez passer sur un grand boulevard. Nous n'avons pas fermé la route de navigation, le trafic fluvial ne pas fermé aujourd'hui. Mais le bateau Kokolo n'est pas autorisé à naviguer avec le niveau d'aujourd'hui, compte tenu de son tirant d'eau.
Alors demain, ça ne sera pas autour du train qui dessert Kinshasa Matadi, parce que la voie ferrée poserait problème. Est-ce que vous pouvez donner une garantie à toute la population qui vous suit en ce moment, monsieur le DG?
Je pense que nous avons ce que nous sommes nous-mêmes autorités ferroviaires. Donc, avant de prendre des risques de mettre, vous savez que le train voyageur, c'est une dizaine de wagons qui prennent plus ou moins 100 personnes par voiture, et tout ce qu'il y a comme marchandises à tracer, on ne peut pas prendre ces risques-là sans procéder à des vérifications. Il y a ce qu'on appelle les visiteurs, on occulte chaque mètre de chaque kilomètre de 365 kilomètres entre Kinshasa et Matadi. Tous les locomotives comme les voitures passent aux visites. Donc, on est arrivé dimanche, les voitures vont à l'atelier wagonnage, les véhicules, les locomotives vont au dépôt d'usine, on contrôle, on fait les check-up, c'est comme dans les avions. Et les compatriotes qui ont parlé de qui interdit qu'on inaugure un bateau après l'avoir réhabilité, c'est comme les avions. Un bateau, c'est fait pour vivre éternellement. Un bateau, on le déclasse quand on veut le déclasser. Autrement, on procède à des innovations, des rénovations, des rénovations. C'est comme les avions. Pour autant qu'on respecte les siècles, les programmes de siècles, un avion peut faire tout le temps qu'on veut. On le jette quand on est fatigué. C'est comme des bateaux. Et quand on a rénové un bateau, on a refait la coque, on a refait la superstructure, on a innové tout ce qu'on inaugure. C'est un bâtiment neuf qu'il faut inaugurer. Donc, ce n'est pas interdit d'inaugurer le bateau comme on l'a fait le 16 février 2014 par son excellence, monsieur le président de la République.
Alors, on revient à madame Joséphine qui était à Boston. Madame, vous avez suivi?
Oui, j'ai suivi. Je vais répliquer aussi pour dire à monsieur le PDG, c'est comme si ils ont, ce qu'ils ont fait, c'est comme si ils ont acheté le bateau avant de baliser même le fleuve. Donc ils ont juste fait le contraire. Moi, je crois qu'ils devaient d'abord baliser, mettre tout, travailler sur le fleuve et puis mettre le bateau au-dessus pour qu'il n'y ait pas coupure, pour qu'il n'y ait pas, ils ont utilisé le bateau au mois d'avril et maintenant on est au mois de d'août, il n'y a rien. Bon, ça c'est une parenthèse. Je disais de dire, je venais de dire que il y avait 15 ans qu'on n'avait pas vu le train qui est parti de Kinshasa jusqu'à Matadi. Mais moi, je veux aller encore plus loin. Je veux aller encore plus loin. C'est même 20 ans, c'est même 30 ans. Moi, j'ai pris le train en 1996 qui partait de Lubumbashi jusqu'au Kasaï à Mounibé. On est parti, c'était la période de M. Classe, on est parti de Lubumbashi à jeudi, le matin à 9h, nous sommes arrivés à Mounibé tout le vendredi à 16h. Bon, ça, ce que je vais dire, le gouvernement congolais, c'est qu'il est en train d'agir comme un papa qui se félicite chez ses amis pour dire que, vous savez, moi, j'achète la farine pour ma maison. Je nourris mes enfants. Mais papa, tu dois nourrir tes enfants. Tu dois acheter la farine. Tu dois payer les écoles. Tu dois tout faire pour tes enfants parce que ce sont tes enfants, ce sont tes responsabilités. Si les gens sont en train d'appeler, c'est pour dire que c'est le devoir du gouvernement. Ils doivent faire ça. Quand, moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, je considère toujours que le président Joseph Kabila, il est venu avec Afdel, avec Laurent Désiré Kabila, pour chasser le Mobutu, pour chasser le système de Mobutu. Donc, il savait que il voulait le changement. Donc, tout est, au Congo, tout est prioritaire. Alors, il faut placer les prioritaires là, les placer maintenant. Commencer avec le transport. Parce qu'avec le train qui quittait, par exemple, Lubumbashi jusqu'à Yebo, il y a combien de villages? Parce que le Congo, c'est un grand village. Il n'y a que 4 grandes villes ou bien 5 grandes villes.
Oui, madame Josephine, le DG venait de le dire, de le mentionner, et surtout pour le cas de Kinshasa Matadi, vous avez plus de 30 arrêts,
oui.
Donc c'est déjà énorme et ça nécessitait quand même la relance de ces activités pour permettre à ce qu'on puisse évacuer quand même certaines marchandises, des tonnes qui traînent encore dans
les entreprises. C'était hier.
Oui, allez-y.
C'était hier, vous nous donnez les informations comme ça, on a relancé. Les travaux ont pris combien de temps? Moi, je sais que ça n'a pas pris 15 ans. Parce que ça fait 15 ans que le gouvernement, le président, est là en train de diriger. Donc, pour aménager le train de
Kinshasa Matadi,
le train
la voie ferrée
jusqu'à Matadi, ça a pris 15 ans. On a dépensé combien d'argent? Ici, seulement, Matadi, Kinshasa, si c'est 150 ou bien 120 kilomètres.
C'est 300
kilomètres. Ça doit prendre 15 ans. Et le train de Lubumbashi, les boutons, ça ne reprendra jamais.
Merci beaucoup, madame Josephine. Voilà, merci beaucoup, madame Josephine. Beaucoup de gens souhaitent participer à cette émission. On va accorder la parole aux uns aux autres. En tout cas, il faut encore merci d'avoir accepté de contribuer à cette émission depuis Boston, aux États-Unis. À Moulé, vous êtes à Indokolo. Là, nous sommes à Ituri, dans la province de Haute-Ouélé, je crois. Voilà, à Moulé, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, à Moulé.
Oui, je salue tous les auditeurs de la radio Capi et à particulier vous.
Merci. Quel est votre point de vue par rapport au débat du jour?
Oui, par rapport au débat du jour, c'est que vrai, il faut saluer d'abord les efforts du gouvernement et la relance des activités ferroviaires, et nous les saluons d'abord, c'est que vrai, et puis avec les bateaux Kokolosi, nous saluons là. Je rejoins mon ami de Kassai. C'est que vrai, il y a un problème dans ce pays. Et le problème des partitions illégales des ressources, par exemple au niveau des transports, c'est que vraiment les biens sont mal répartis. Et le gouvernement est en train de favoriser plus la capitale et les points qui sont près du capital. C'est ce qui peut-être la population négativement, mais aussi la publicité, les autres choses. Mais c'est comme les journalistes des fois ne sont pas invités et dans les chaînes indépendantes et même dans les chaînes officielles, ils peuvent participer indépendamment et de la volonté et du gouvernement. Et par rapport à cette question, je suis en train de voir que il faut que le gouvernement évite d'effectuer les projets et dans les séances préélectorales, c'est-à-dire et quand on fait un programme, il faut faire au début du mandat et ne pas attendre la fin du mandat pour,
Merci
pour faire le projet. Je suis en train de voir que l'observation que les amis sont en train de faire sur la propagande, sur la publicité, pourrait être vraie dans le sens qu'ils ont approché les choses avant les élections. Alors c'est ce qui est en train de faire. D'ailleurs, nous sommes dans, ce n'est pas Haute-Ouélé, nous sommes dans l'Itourie.
L'Itourie.
C'est une des provinces dans le vraiment de l'ex-oriental.
Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup, Amoulé. Gérard, vous êtes avec nous? Gérard?
Oui,
vous êtes à Monéditou.
Oui, je suis à Monéditou. Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, vous avez la parole, Gérard.
Oui, pour moi, je dis ceci. Dans le cas du projet de transport multimodal, je parle aussi en tant qu'un cheminot. Je suis agent SNCC à Monéditou. Je sais que le gouvernement est en train de fournir les efforts. C'est toujours louable, mais il y a une chose. Ça fait plus, si j'ai bonne mémoire, ça fait plus de 5 ans, pas moins, qu'on nous parle des transports, de ces projets multimodales. Plus de 5 ans, s'il vous plaît. C'est maintenant que nous sommes en train de voir un peu, une petite lumière sur ce point-là. Alors, le problème, c'est quoi? C'est ça, cette relance prendra combien de temps? Est-ce pour commencer, pour ne pas continuer avec le projet, pour que ça reste et pour que ça évolue encore beaucoup plus, ou bien on commence et après, une année, après quelques mois, et on rentre encore au point de départ. C'est ça le problème. Exemple, je vais vous donner l'exemple. Monéditou Mbujimayi, une petite distance de...
Voilà, Gérard, s'il vous plaît, je vous demanderai de garder la ligne, parce que nous allons suivre les informations, et aussi demander à notre invité, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, de encore garder la ligne pour que nous revenions le temps de rappeler à nos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent également participer à ces débats en composant les 081-890-6315 pour les interventions en direct, et ils peuvent également déposer leurs commentaires sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen. Gérard, vous êtes à Chibanda, Monéditou. Gérard, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Voilà. Tout à l'heure, vous vous posez la question de savoir, ça va prendre combien de temps, hein, ces projets, pourvu que ça dure. Je crois que c'est ça votre préoccupation.
Oui, et je continue en disant ceci. Je donne un exemple. Et les marchandises qui viennent du Katanga et en provenance du sud ou sur place du Katanga vers Monéditou, c'est pour aller à Mbujimayi. Alors, la suite, c'est maintenant la route. Actuellement, pendant que je vous parle, la route Mbujimayi, on faisait 1h30 pour arriver à Mbujimayi. C'est une distance de 135 km, presque pratiquement même distance avec le Lubumbashi-Likasi. Aujourd'hui, si vous êtes dans le Lubumbashi-Likasi, vous faites 1 heure. Vous êtes à Lubumbashi bien Nikasi. Aujourd'hui, à Mbujimayi, une voiture. Avec une voiture, s'il vous plaît, on fait 4 heures du temps. C'est pour vous dire la route n'est pas bonne. Et nous pouvons avoir le matériel, le chemin de fer, comme nous sommes en train de les réceptionner aussi. Mais le rail sur lequel l'acquisition, on va pouvoir emprunter, le rail n'est pas en bon état. Parce que le Lubumbashi Monéditou, à l'époque, avec le train spécial que nous appelons chez nous, Kiama Denis, on pouvait faire 48 heures tout au plus. Et on arrive à Monéditou. Maintenant, si nous roulons bien, nous faisons 10 jours, une semaine, voire même 8 jours pour arriver à Monéditou, sur une distance d'à peu près de 900 km seulement. Alors vous voyez que l'objectif ne sera pas tellement bien atteint. malgré l'acquisition de nouvelles machines. Il faut qu'on revoie la route, le chemin de fer.
Merci beaucoup, Gérard. On va retrouver professeur Ignace qui est à Colosi. Professeur Ignace, bonjour.
Bonjour, Gérard. Je voudrais réagir juste à deux volets. Hein. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je voudrais faire voir aux amis qui interviennent que chaque fois qu'on intervient, nous ne devons pas rester dans une position, permettez l'expression, d'aboliciste par rapport aux efforts du gouvernement. C'est vrai que le gouvernement a traîner les pieds pour mettre maintenant les batteries en marche dans les secteurs très très importants comme celui des transports. Mais je ne voudrais pas non plus que le gouvernement reste dormir sur ce laurier, parce que le grand défi reste la capacité de ces moyens qui sont en train de mettre en marche et la régularité. Voilà à peu près ce que je voudrais dire. Donc, pour me résumer, n'est pas trop diaboliser le gouvernement. Il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire, mais cela n'est pas suffisant et c'est pas une raison pour le gouvernement de croiser les bras. Par rapport aux médias, je pense que lorsque le gouvernement appelle les journalistes, ce n'est pas pour vanter, mais c'est pour montrer et présenter ce qui est en train de se faire. Moi, je trouve cela très normal. Voilà ma réaction.
Merci beaucoup, professeur Ignace. Nous revenons à vous, notre invité, monsieur Kimbembe Mazunga. Vous êtes en ligne.
Oui,
voilà, vous avez suivi cette longue deuxième série des auditeurs. Alors, quelle est l'impression que vous avez par rapport à toutes ces réactions, par rapport à toutes ces préoccupations, les appréhensions qui s'en sont suivies?
Donc, oui, il y a beaucoup d'a priori dans les chefs de certains de nos compatriotes. Mais ça, c'est le travail. Ça montre que la presse, vous avez du travail à faire. Comme l'a dit notre dernier compatriote, la presse, vous devez informer, communiquer, pas pour... Nous ne sommes pas là pour venir vanter. Nos mérites, nous jetons dans une sorte d'autosatisfaction. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, par rapport à la relance du chemin de fer, on a dit tout ça, du trafic voyageur, on a dit que nous avons lancé le 5-7, mais nous n'avons qu'une rotation, il faut au moins 3 rotations, et puis il faut lancer le train express, donc il faut commencer quelque chose et consolider. On pose ce problème, oui, mais on doit savoir aussi qu'il y a éternellement des problèmes dans notre pays. Nous sommes en train de faire face à énormément de problèmes et nous ne devons pas nous croiser les bras, nous ne devons pas prendre ce problème s'il y a eu comme prétexte. Nous sommes aux commandes aujourd'hui, c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et donner des solutions idoines aux préoccupations des populations, notamment dans le secteur du transport multimodal. Lorsque notre compatriote dit qu'il faut d'abord baliser le fleuve avant de mettre le bateau, elle n'a pas très bien suivi ce que j'avais dit moi, par rapport au tirant d'eau, par rapport à la calaison. Je dis qu'aujourd'hui, l'ex-national, la FFC, a une dizaine de bateaux qui naviguent au fleuve. Il y a des bateaux qui naviguent pendant 12 mois. Il y a des bateaux qui font les petites rivières, les rivières que nous appelons la Russie, par exemple, les rivières de Sevastopol. C'est pour ça qu'il faut lancer des bateaux comme Gungo, pour que les passagers soient aussi, pour que les zones qui sont le long des petites rivières soient desservies en termes de bateaux voyageurs. Donc, c'est un problème qui concerne un certain type de navire, comme Kokolo, il ne peut pas naviguer. Parce que ça aussi, étant donné sa constitution, étant donné la chance qu'il doit qu'il a fait la transformation. Donc, c'est quand même positif de réaction de nos compatriotes. Ça nous aide à corriger, ça nous aide à faire mieux aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut prendre ça positivement.
Alors, aujourd'hui, c'est pareil, ça peut être une préoccupation, des curiosités. Le programme de transport multimodal, vous qui êtes dans les secrets de Dieu, est-ce que ça avance avec les partenaires, les financements, pour que finalement nous arrivions au résultat, celui d'améliorer la performance du secteur du transport en RDC?
Mais bien sûr, vous avez vu toutes les activations, les acquisitions qui sont au niveau de la SNCF aujourd'hui. Hein, c'est un travail, un effort du gouvernement au travers de ce projet multimodal. Donc c'est un projet qui a pris du temps parce qu'il fallait fermer les besoins, il fallait dimensionner les acquisitions par rapport aux besoins, par rapport aux préoccupations. Et je crois que
nous sommes dans la phase de matérialisation aujourd'hui, les résultats sont là. Nous devons nous mettre tout à l'heure pour consolider davantage.
Voilà, on va prendre les deux derniers auditeurs et puis on va conclure avec vous, monsieur le DG. Blaise, vous êtes à Kikwit, Maître Papi, à Libou, à Kindou. Blaise, bonjour.
Oui, bonjour, je ne suis pas à Kindou, je suis à Kikwit.
Voilà, Blaise, vous êtes à Kikwit et Papi à Kindou. Voilà, donc vous utilisez votre poste récepteur, raison pour laquelle vous nous captez avec un léger retard. Si vous pouvez commencer par éteindre ce poste récepteur et nous communiquer par téléphone, Blaise.
Oui, d'accord, les radios, je suis maintenant au téléphone.
Ben oui, mais nous avons les retours. On sait remarquer que vous êtes en train de nous suivre par votre radio qui est ou clairement il y a quelqu'un qui écoute ça tout autour de vous.
Oui, d'accord,
alors maintenant allez-y. Rapidement parce qu'on a plus assez de temps, Blaise. Vous n'avez qu'une minute. Voilà, désolé. Maître Papi, Abibou, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, messieurs, bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi.
Vous avez la parole, quel est votre point de vue? Allez, une minute.
Notre point de vue, c'est que le peuple congolais ne doit pas considérer tout dans le mauvais sens. Je pense que dans les secteurs dont il est question, c'est quelque chose à encourager. Prenons l'exemple de la province de Kindou où je suis présent ici. Nous sommes en train d'assister à certains politiciens qui, au lieu de voir le besoin de la population, mais ces autorités-là sont en train de regarder leurs besoins. Je pense que regardez par exemple, pour ceux qui connaissent bien Kindou, le rond-point ex-intitulé Kindou jusqu'au rond-point Biréré. Échangeur, les Chinois ont laissé un petit tronçon, mais en disant au gouvernement provincial de terminer ces petits tronçons routiers en charge. Mais au lieu que les autorités provinciales pensent d'abord les défenses de la population, ils ne font qu'inaugurer les bars. Je pense que...
Voilà, Blaise, pardon, Maître Papi, merci beaucoup. L'un de vos prédécesseurs, il s'agit bien de Sylvain Desmougnat, qui a évoqué quelques dispositions de la Constitution, là où il y a des attributions qui lèvent donc la compétence des provinces, notamment à la matière de l'amélioration de la performance du secteur du transport également. Donc je crois que c'est un autre débat que nous pourrons relancer dans les jours à venir. Monsieur le DG, nous revenons à vous. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ce projet de transport multimodal? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, on peut dire que tout le monde sera bien servi et ce sera à un prix abordable?
Oui, prix abordable, bien sûr. Bien sûr. Allô?
Oui, allez-y, monsieur le DG.
Oui, nous sommes en train de voir ce qui se passe par rapport à l'avion, par rapport au véhicule qui assure le transport de personnes. Pour les tronçons Matadi Kinshasa. Aujourd'hui, la deuxième classe coûte 16 000 francs. 16 000 francs. Et la classe de luxe coûte de 80 dollars. La première classe coûte de 40 dollars, 60 dollars. Donc je pense que quand on voit les conforts qu'il y a là-bas, on voit les conditions dans lesquelles on voyage, on voit les catrines de repas qu'il y a là-bas, ce qu'on offre, la boisson de café. C'est comme le dit toujours les ministres des Transports, c'est voyager autrement. Voyager autrement par bateau et voyager autrement par chemin de fer. Je pense qu'on a concilié les trois paramètres, vitesse, confort, sécurité. Et quand on voit la triomphe qu'il y a eu dimanche matin à Matadi, je pense qu'on peut dire que c'est à la portée de tout le monde. Il y a même les compatriotes qui ont dit que c'est moins cher que la voiture. C'est vrai. 5
000 francs congolais, moins de 20 dollars. Voilà. Monsieur Jean-Kimbe Mazunga, directeur général de la FTP, ex-ONATRA, merci d'avoir répondu à notre invitation et c'était un grand plaisir pour nous. Merci également à Guy Manzangou qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Julie César Bongonda, un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Lungembo. On prendra rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro.